Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on commence avec de la stratégie patrimoniale grâce à Élodie Roux. Bonjour Élodie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous sur Cœur de patrimoine pour Altos Patrimoine. Et on va parler donc d'une stratégie, l'apport-cession. Il faut d'abord que vous nous rappeliez un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'apport-cession.
Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ce mécanisme qui est quand même assez complexe, qui est l'apport-cession. C'est une stratégie patrimoniale qui consiste pour un chef d'entreprise à réaliser une certaine opération pour optimiser la cession de sa société. L'opération consiste en un apport des titres de sa société à une holding à l'impôt sur les sociétés avant de la vendre. L'objectif de cette opération, c'est de bénéficier d'un report d'imposition. Donc, on va calculer le montant de l'impôt qu'il aurait dû payer en cas de cession. On va le figer aux conditions fiscales actuelles et le décaler à un moment ultérieur. L'intérêt pour le chef d'entreprise, c'est que s'il ne fait pas cette opération, il va vendre en direct. Mmh. La fiscalité sur la plus-value va être due. Aujourd'hui, quand on réalise une plus-value de cession, la fiscalité qui s'applique de base, c'est la flat tax au taux de 30%, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 17,2%.
Bien sûr.
Et en plus, en fonction du montant, une éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui peut atteindre 4%. Donc on arrive à un taux global qui peut atteindre 34%.
Ouais, c'est pas négligeable.
C'est pas négligeable. Et si on prend, par exemple, une cession d'1 million d'euros, avec une plus-value d'1 million d'euros, ben, si on applique 34% d'imposition, il ne reste dans la poche du chef d'entreprise que 660 000 euros pour faire d'autres investissements. Donc l'apport-cession, en fait, ça lui permet d'apporter ses titres et de pouvoir réinvestir, en revanche, au sein de sa holding, 100% de son fruit de cession et de payer l'imposition plus tard.
Bon, en clair, c'est quand même un cadeau que nous fait Bercy, que nous fait le fisc. Et j'imagine que, comme tout cadeau, entre guillemets, fiscal, Élodie, il y a des conditions. On ne peut pas juste claquer des doigts en disant « je veux être exonéré » et faire un grand sourire.
Exactement. Comme tout avantage fiscal, il y a des conditions, il y a des contraintes particulières pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Et donc, ces contraintes, elles sont définies par l'article 150 obéter du Code général des impôts. D'ailleurs, quand on parle d'apport-cession, on me fait parfois un raccourci en parlant d'article 150 obéter.
Ouais, c'est une terminologie qu'il faut avoir en tête quand on navigue un petit peu dans le monde patrimonial. 150 obéter.
Exactement. Et donc, cet article 150 obéter nous dit que quand on fait un apport-cession, donc on apporte les titres à une holding, puis on cède, si on cède dans les 3 ans suivant cet apport, pour pouvoir maintenir ce report d'imposition qu'on est venu chercher en faisant cette opération, on va devoir réinvestir 60% du fruit de cession dans des actifs éligibles. Le but de ce dispositif fiscal, c'est de faire investir dans l'économie réelle. Et donc, les actifs éligibles, ça peut être monter une nouvelle société. Donc ça, c'est super intéressant pour un chef d'entreprise qui viendrait céder. Il disposera de tous ses capitaux pour créer sa nouvelle société. Investir au capital de sociétés d'amis ou de start-up qu'on aura sélectionnées ou de sociétés qu'on connaît. Ou dans des fonds d'investissement. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Il y a des fonds d'investissement qui sont éligibles au remploi, qui investissent dans des actifs éligibles au remploi. Donc, on va pouvoir investir dans des start-up, dans des sociétés en croissance, dans des sociétés déjà matures, déjà rentables, dans des bois et forêts, dans de l'hôtellerie. Enfin, pour le coup, c'est assez large. Mais ces fonds d'investissement ont des contraintes qui font qu'on doit les détenir au moins 5 ans.
D'accord.
Et généralement, elles ont des horizons d'investissement un peu plus longs.
Donc, on peut croiser des véhicules d'investissement qui seront avec l'espèce d'autocollant éligible.
Exactement.
150 obéter. Vous saurez maintenant ce que c'est que si vous en croisez. Il n'y a que des avantages ou est-ce que parfois, enfin, par exemple, vous nous parliez de vos clients, est-ce que parfois la stratégie était mise en place, les choses se font et puis le client se dit « bon, j'ai peut-être pas joué tout à fait le bon cheval ». Est-ce qu'il y a des moments où finalement, c'est peut-être pas 100% adapté?
Bien sûr. Alors, il y en a, et c'est pour ça que, comme toute stratégie patrimoniale et comme tout avantage fiscal, il faut d'abord prendre de la hauteur, regarder sa situation, ses objectifs, où on veut aller pour voir si c'est une stratégie.
C'est pas parce que le copain l'a fait que forcément pour nous, ça va être idéal de le faire.
Exactement. Parce qu'en réalité, comme on doit réinvestir 60% du fruit de cession dans des actifs éligibles, qui sont souvent bloqués à long terme, ça veut dire qu'on n'a plus que 40% pour faire un peu ce qu'on veut en termes d'investissement. Et en plus, on est dans une société patrimoniale à l'IS, donc c'est aussi un petit peu contraignant. Donc d'un point de vue fiscal, c'est très bien. J'ai beaucoup de clients qui, après coup, regrettent d'avoir fait de l'apport-cession pour un montant trop important, parce qu'on n'est pas obligé de faire un apport-cession sur l'intégralité des titres de sa société.
C'est bien saucissonner.
On peut saucissonner. On peut se dire qu'on vend une partie à titre personnel et une partie via la holding. Et c'est surtout via la holding qu'on va privilégier des investissements à long terme. Donc, il faut se dire de quel montant j'ai pas besoin en réalité avant un certain temps pour pouvoir vivre et répondre à mes objectifs personnels. Puisque le but, c'est pas non plus de s'arrêter de vivre une fois qu'on a cédé sa société.
Et peut-être transmettre et peut-être effectivement avoir à disposition ses capitaux.
Ouais. C'est ça. Et du coup, l'enjeu principal, généralement, quand on cède sa société, c'est quand même d'avoir des revenus complémentaires. Si on est sur un chef d'entreprise qui part à la retraite ou qui arrête son activité dans le but d'en relancer une, il faut maintenir son niveau de vie. Et donc, quand on est dans une société holding LIS, avec des contraintes de remploi sur 60% sur des actifs qui sont investis plutôt à long terme, qui ne distribuent pas forcément, on est un peu limité. On n'a plus que 40% pour générer du résultat distribuable, qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et si on veut le récupérer à titre personnel, on va devoir encore payer la flat tax au titre des distributions de dividendes. Donc, ça handicape un petit peu pour se générer des revenus complémentaires.
Donc, attention, le dispositif est très intéressant, il mérite d'être regardé, mais il ne faut pas oublier les quelques limites, entre guillemets, ou les quelques points d'attention qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, qu'il convient d'avoir en tête, d'avoir noté sur son petit post-it au moment où on se met à réfléchir en se disant, tiens, est-ce que je me jette corps et âme dans ce 150 obéter?
Oui, il y a d'autres points. Il y en a un que j'aime bien rappeler, parce que même si on n'a pas besoin de cet argent, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément le profil qui permet d'investir sur ce type de solution. Si c'est le travail de toute une vie, on doit réinvestir 60% dans des actifs éligibles. Les actifs éligibles, c'est l'économie réelle. C'est des investissements qui ont des risques de perte en capital. Le but, c'est pas de se dire j'optimise ma fiscalité, mais je dors plus la nuit parce que j'ai mis 60% de mon patrimoine que j'ai mis toute une vie à construire dans des actifs qui peuvent être un petit peu risqués. Donc, il y a ce point-là. Il faut aussi voir comment on se sent avec les investissements et avec quoi on est à l'aise. Il y a un point qui est important également, c'est que c'est la question des revenus complémentaires. En fait, les revenus distribuables dans une société à l'IS, ils sont cantonnés aux résultats qu'on va réussir à générer. Donc, on est très limité sur l'enveloppe. Donc, si demain, on a besoin de faire une réduction de capital parce qu'on n'arrive pas à générer assez de revenus, c'est ce moment-là où la fiscalité qui a été placée en report va être exigible. Et donc, à ce moment-là, quand on va sortir l'argent, on va payer la fiscalité. Ce n'est pas très grave parce qu'on l'aura figé à un taux de 34% qui est plutôt avantageux aujourd'hui. On ne sait pas ce qui sera demain. Mais voilà, on va devoir être redevable de cette fiscalité. Donc, la fiscalité est vraiment en report. Elle n'est pas purgée.
Oui, c'est
donc,
ça.
Voilà. C'est vraiment, on décale le paiement, mais on va passer à la casserole un jour. Sauf si on a deux cas pour purger la fiscalité. C'est le décès de l'apporteur. Du coup, ça purge complètement. Mmh. Ou la transmission.
Très intéressant pour la...
Voilà, l'avantage après est un petit peu perdu pour lui. Sinon, c'est la transmission aux enfants. Et donc, la transmission aux enfants, on purge la plus-value après le respect d'un délai de 5 ans ou de 10 ans si on a investi via des fonds d'investissement pour son remploi.
D'accord.
Donc, ça demande quand même un peu de temps devant soi. Et donc, c'est pas forcément adapté à toutes les stratégies patrimoniales. Peut-être que quand on a cédé son entreprise, on a envie d'aider ses enfants à acheter leur résidence principale. Ouais. On a envie de s'acheter nous-mêmes
ou
une nouvelle résidence.
Eux-mêmes des entreprises.
Exactement, c'est ça. Ou s'acheter une résidence secondaire pour profiter de sa vie pour profiter après sa vie de travail. Et quand on est dans une structure à l'IS, c'est pas forcément la meilleure solution.
Donc ça veut dire que on pourrait quasiment reprendre pour conclure un mantra qu'on devrait toujours avoir en tête quand on est justement dans cette gestion de patrimoine. Et le dire haut, c'est de se dire, ok, il y a des avantages fiscaux qui existent, c'est bien de pouvoir en profiter, mais il faut pas se jeter tête baissée dedans en disant juste il y a un avantage fiscal.
Exactement.
C'est à étudier dans sa globalité et ça, on le dit souvent quand même.
C'est vrai, les avantages fiscaux, c'est bien, mais ça doit pas du tout être l'élément principal pour guider et pour faire des stratégies patrimoniales. Et c'est pour ça que quand on a une cession d'entreprise à venir, c'est important d'anticiper, de pouvoir en discuter avec son avocat fiscaliste, avec son expert comptable, avec un conseiller en gestion de patrimoine, pour pouvoir vraiment réaliser une étude patrimoniale globale, prendre de la hauteur sur ses objectifs, sur ce qu'on veut, ce dont on aura besoin, et justement décider si l'apport cession, ça peut être très bien dans certains cas. Si on a envie de recréer une société, si on a besoin d'investir à long terme et qu'on n'a pas besoin de cet argent, c'est super. Mais dans le cas où on a besoin de revenus complémentaires, qu'on veut transmettre, qu'on veut faire des investissements à titre personnel, c'est un peu plus contraignant.
Vous savez tout ou presque sur l'apport cession grâce à Élodie Rouault. Merci Élodie d'être passée sur Radio Patrimoine pour Cœur de Patrimoine. Donc Élodie Rouault, Altos Patrimoine. À très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.